Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. C'est parti. Donc, bonjour, une introduction intéressante, disons-le. Parce qu'on va le garder, ça, quand même, un peu.
Ah, t'es... je suis pas certaine, Léa. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour les gens qui nous écoutent
de garder ça. Les gens voudront plus soutenir Popol après ça.
Si, je pense que les gens vont vouloir soutenir Popol. C'est juste qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'elles font dans leur studio, là ? Qu'est-ce qu'elles racontent, les filles ?
Alors, effectivement, on va... on a la chance d'être à la Maison de la Radio. C'est la première fois que j'enregistre un Popol à la Maison de la Radio, c'est ouf.
Et ben voilà, 2024.
Ouais, une très belle année.
C'est une très belle année qui commence. tu enregistres Popol à la Maison de la Radio.
Ça c'est quand même un sacré glow quoi pour Popol, c'est pas mal. Donc Nora m'a dit, parce qu'on t'a même pas encore présenté depuis tout à l'heure, les gens écoutent, entendent et se disent mais qui est cet invité mystère ? Eh bien c'est Nora m'a dit.
Eh ben, je suis ravie.
Nora m'a dit en quelques mots, tu es journaliste, réalisatrice, fondatrice d'associations, quoi d'autre ?
Banlieusarde surtout.
Banlieusarde surtout.
Ouais. Ma sur toutes mes bio, Instagram, Twitter, je crois que j'ai TikTok mais j'y vais jamais. Je commence toujours par dire que je suis banlieusarde et c'est un grand fait d'armes parce que c'est pas rien d'être issue du banc et de la marge.
Et bien justement, on va pouvoir peut-être en parler, comme ça on met les pieds dans le plat direct, on parle de toi, de d'où viens-tu en fait ? Quelle est ton histoire ? Quel est ton parcours ?
Waouh ! Je vais essayer d'aller vite.
Non, on peut prendre le temps que tu veux, le temps que tu veux.
Mon parcours, et ben, je suis un pur produit de banlieue zone 5 de la région parisienne, c'est dire à quel point je suis vieille, je suis une daronne. Puisque à l'époque, c'était pas dézoné. Donc moi, j'ai grandi en grande banlieue, dans l'Essonne, dans un quartier qui est multi-relégué, à Longjumeau, dans les quartiers sud, une cité qui s'appelle La Rocade. C'est dire à quel point, on n'a même pas cherché à lui donner un nom, on a juste pris le nom de la route qui l'aborde. Voilà, ça dit quelque chose, en fait, je pense. J'ai grandi là, j'ai été à l'école là, et j'ai adoré ces années-là parce que moi j'ai eu la chance dans les années 80 de bénéficier de tellement de structures d'éducation populaire en bas d'immeubles, d'un tissu associatif extra riche, d'un lien social privilégié, d'un dynamisme, d'une solidarité que j'ai du mal à retrouver peut-être de manière aussi forte aujourd'hui dans plein de quartiers dans lesquels je continue à être quasi quotidiennement. J'ai fait des études de sciences politiques tout en travaillant à côté. J'ai travaillé... Moi, pour le coup, cette réforme des retraites va me permettre potentiellement de partir avant 64 ans, parce que je suis carrière longue. Voilà, j'ai commencé à travailler très jeune. Et c'est génial parce que du coup, j'ai eu des expériences très fortes.
C'était quoi ton premier taf ?
Mon premier taf, évidemment, j'ai fait des babysitting. Mais mon premier taf, j'ai été préparatrice de commandes à 16 ans et demi dans un entrepôt dans la zone industrielle de Chilly-Mazarin. Et j'étais avec des gens qui n'avaient pas d'autres possibilités que de faire ça en intérim. Je faisais ça en intérim, alors que j'étais mineure, donc il avait fallu biaiser un peu pour pouvoir le faire. Et j'étais avec des gens qui m'ont poussée et qui m'ont dit « Nous, on n'a pas le choix. Toi, donne-toi la possibilité du choix. Et ça, c'est un privilège. » Je me souviendrai toute ma vie de cette première expérience parce que la sonnerie, en fait, pour prendre le taf, c'était à 8 heures. On avait une sonnerie à 9h45 pour la pause. Tu avais le droit donc d'aller aux toilettes. À 10h, ça reprenait jusqu'à midi. Puis 13h, 14h45, 15h jusqu'à 17h. Et à 17h, le contremaître passait, nous alignait. Et selon s'il nous faisait faire un pas ou pas, on avait le droit de faire des heures supplémentaires. Donc cette espèce d'expérience physique...
Le droit, quoi.
Ouais, cette expérience physique de l'humiliation... du droit de l'autre et du privilège de l'autre de te choisir pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards, que moi j'étais choisie alors que j'étais avec, je me souviens, une maman solo qui avait plusieurs gamins, et voilà. Et cette expérience de la violence sociale, en fait, elle a été hyper formatrice parce que du coup, tu sais à quoi tu dois échapper. Et moi qui viens d'un milieu ouvrier, employé, c'était quand même... Ouais, ça c'était formateur. Et j'expérimentais aussi tout ce qui était de l'ordre de la, des discussions à la maison avec mes parents, avec les amis de mes parents qui sont tous militants syndicaux, politiques. Voilà, moi je viens d'un milieu... Alors, s'il faut citer Bourdieu, on en est à la minute 6. Moi, j'ai, pour le coup, un capital culturel assez important, puisque je viens d'une famille de militants, associatifs, politiques, syndicalistes. Dans d'autres générations, c'était la guerre d'Algérie, militants de la libération, etc. Donc, la socialisation politique, elle s'est faite très tôt. Et donc, ces questions, elles ont toujours été centrales. Dans les amis de la famille, il y a beaucoup d'établis, par exemple. Donc, ces questions, elles ont toujours été au centre. Donc, comme quoi l'arbre, enfin, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Et voilà, donc j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai été prof. Et au hasard d'une expérience au journal Le Parisien où j'étais assistante de rédaction, j'ai eu la chance en fait souvent de croiser des gens qui ont potentiellement plus cru en moi que moi-même. Et je me souviendrai toute ma vie du chef du service éco qui me disait « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes là, vouloir là, prof, mais non, mais viens, enfin, ce métier, il est fait pour toi. Tu poses des questions 100 fois moins connes, en fait, que certains des gens que j'ai dans mon service. » Et c'est la première fois vraiment que je me dis « Bah, après tout, pourquoi pas ? J'ai 25 ans, j'avais jamais pensé au journalisme parce que... » Là, pour le coup, cette identité banlieusarde multi-reléguée fait que c'était des métiers qui étaient hyper loin. J'en connaissais pas et j'avais pas la possibilité ni de faire d'école. Et puis à l'époque, il y avait, je me souviens avoir évoqué Sciences Po, mais il n'y avait pas de convention ZEP. Je vous parle de ça bien en avance. Ça semble, c'était il y a une éternité, mais c'était ça. Et donc, du coup, il n'y avait pas cette possibilité, moi, pour mes parents, de financer ça. Moi, je ne pouvais pas financer ça. Je travaillais à temps plein à côté de mes études. Pendant toutes mes études, j'étais à 35-40 heures par semaine à côté. Donc, il n'y avait pas de possibilité de prétendre même à Sciences Po ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas possible. Voilà. Et donc, j'arrive par accident dans ce milieu. Et en fait, tout a été un hold-up. Tout a été des opportunités, des accidents. Et puis, un moment où j'ai fait, bon, en fait, vas-y, on y va et on essaye. Pas d'école de journalisme. Et du coup, bonne petite galère quand même. Faut vraiment avoir la rage et faut y aller. Surtout avec... À cette époque, des gens qui me disaient que j'avais globalement pas grand-chose à faire là. Mmh. On était avant Zia Debouna, on était avant ces moments où la question de la diversité dans les médias se posait. Donc, on voyait pas la nécessité d'ouvrir cette endogamie, notamment sociale, c'était pas un sujet. Et en fait, ça l'est devenu au fur et à mesure. Et du coup, voilà, du haut de mes bientôt 20 ans de carte de presse, désormais, je me dis que même s'il y a encore du taf, il y a quand même des choses qui ont bougé. Voilà, donc là, maintenant, à l'heure où je vous parle, bah, on est dans un studio de la Maison de la Radio où je viens de sortir de mon émission hebdomadaire sur France Culture.
Le samedi, Sous les radars.
Le samedi à midi, où j'ai la chance, pendant une demi-heure, de produire quelque chose qui me permet aussi de donner la parole à tous ces gens potentiellement à la marge des sphères de pouvoir et ceux que j'appelle ceux qui sont dans les périphéries de la parole. Voilà. Tous ces gens invisibilisés et à qui il faut entendre, à qui il faut tendre le micro et qu'il va falloir entendre. Parce que voilà, on a beaucoup de révoltes, des gilets jaunes, aux bonnets rouges, les... à par exemple les agriculteurs, aux quartiers populaires, voilà. Donc ces gens-là, il faut les entendre. C'est pas qu'ils ne parlent pas, c'est qu'en fait on vit une crise de l'écoute et c'est à mon micro niveau ce que j'essaie de faire.
Qui que ce soit qui regarderait un peu la grille de programmation de ton émission Sous les radars comprendra très, très vite, assez rapidement, que tu es une journaliste plutôt portée par les sujets, disons, engagés. Là, par exemple, aujourd'hui, l'émission que tu as faite, c'était sur la question de l'effectivité des droits. Est-ce que tu peux nous en parler en un mot, peut-être, pour donner envie aussi à celles et ceux qui nous écoutent d'aller l'écouter, peut-être ?
En fait, l'idée de cette émission, c'était d'aller explorer des espaces qui sont des espaces politiques. En fait, tout est politique. Je ne parle pas de la politique partisane, mais du politique, de tout ce qui fait politique. Et c'est de réancrer, en fait, ces débats, ces notions... dans la vie des gens, de manière assez concrète. Donc, quand on parle Bah, cette semaine, des échanges autour de la constitutionnalisation de l'IVG. Quand on parle de la non-constitutionnalité de quasi un tiers de la loi immigration, des échanges autour du hold-up démocratique qui sont les propos d'Éric Ciotti vis-à-vis de Laurent Fabius et du Conseil constitutionnel. Ça dit quelque chose de l'état de droit. Mais plutôt que d'avoir un débat strictement de juriste autour de qu'est-ce que ça signifie à l'heure où le droit de manifester, le droit d'expression, le droit à l'information en fait est de plus en plus attaqué, où les états d'urgence successifs post-attentat de 2015 en fait ont fini petit à petit d'irriguer en fait le droit commun, j'ai voulu revenir un peu sur le terrain en disant ok, il y a l'état de droit, mais il y a l'état des droits. Et en fait, tout ça est lié. Et il faut quand même se rendre compte qu'on est un pays où on a des droits institués. Mais c'est pas pour autant en fait qu'il n'y a pas de non-recours. On estime que le non-recours, c'est aujourd'hui près de 30%. Et surtout, en fait, pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles, l'effectivité de ces droits, en fait, c'est pas si simple. Parce que la dématérialisation est passée par là, l'État et les services publics s'éloignent. Et en fait, c'est ce qui crée aussi la colère, ce sentiment d'être écrasé de démarches, d'être écrasé par des administrations qui sont et lointaines et pas du tout bienveillantes, voire qui peuvent criminaliser les pauvres et les plus précaires. Donc l'idée, c'est d'entendre en fait que voilà, il y a les grands débats. Et il y a les petites réalités. Bah, l'idée, c'est d'inverser. Voilà. Il n'y a pas de petites réalités et de grands débats. Il y a des réalités qui s'interpénètrent et qui racontent en miroir la crise démocratique dans laquelle on est tous aujourd'hui enferrés, je dirais. Et c'est une responsabilité collective que de se bagarrer pour faire en sorte que cette effectivité soit réelle. Donc, est-ce que ça, c'est engagé ? Je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ces étiquettes, parce qu'en fait, juste de dire on a des droits et il faut les faire appliquer, si c'est ça être engagé, pardon Léa, mais on est quand même vachement dans la merde.
Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
On est quand même dans la merde. C'est-à-dire que dire à un moment, en fait, si on a au fronton partout des écoles, des mairies, liberté, égalité, fraternité, ce serait bien qu'on soit dans une forme d'égalité réelle, que la fraternité ou la sororité en fait soit effective et que les libertés ne soient pas attaquées, si c'est ça être engagé, je dis que vraiment, en fait, là, on est dans une impasse. Donc, dans ce cas-là, j'accepte largement le qualificatif d'engagé, mais je ne crois pas, en fait, qu'on en soit là. Ou alors, ça veut dire que par rapport à ce qu'était l'engagement dans les années 70-80, et dans lequel moi j'ai grandi, enfin, j'ai grenouillé, en fait, dans ces états-là, enfin, on n'en est pas là, quoi. Moi, je donne la parole à des gens qui disent on voudrait être sur la photo de famille, en fait. Voilà, on voudrait créer une société inclusive qui permette de donner une place à chacun. Donc laissez-nous la place et laissez-nous notre place. L'idée, c'est pas de vous grand remplacer. L'idée, c'est que chacun ait une place. Des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont en ruralité, des personnes qui sont dans ce qu'on appelle les lieux du banc, qui est la banlieue, des personnes racisées. Enfin voilà, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut penser et créer une société inclusive qui donne sa place à chacun? Putain, c'est quand même pas révolutionnaire.
Non, c'est sûr, mais je pense qu'on est vraiment dans la merde, hein, entre nous, pour répondre à ta question et réagir un peu à ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, on est un peu dans la merde, clairement. Mais bon, il y a quand même des choses positives, on est aussi là pour en parler. Récemment, tu as fait une émission sur les utopies, ça c'est aussi un sujet intéressant, tu vois. Bref, je voulais aussi revenir sur ta petite passion Europe, ton petit kink.
Ah ouais. Mais c'est pas original en fait, parce que c'est marrant, parce que du coup en fait c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi l'Europe? Pourquoi pas?
Ouais, mais surtout là, à la veille des élections européennes, je me dis que c'est un bon moment pour en parler.
Ouais, d'autant que en fait, et ça c'est marrant parce que dans ma trajectoire, alors oui, je parle beaucoup de la banlieue, je parle beaucoup des gens invisibilisés, parce que j'y tiens, parce que c'est les miens et parce que je suis restée en fait dans ces espaces où je vis encore, où je milite encore, voilà. Donc c'est mon quotidien, c'est pas une posture du tout. Mais par ailleurs, j'ai eu l'opportunité de croiser ces questions européennes, la question politique qui était pour moi importante, et l'état suprême, en fait, du politique, c'est la macro-politique, qui est un espace politique qui est en création, qui est encore en processus, Et ça, en fait, c'est passionnant parce que ça implique... T'es à la fois dans la diplomatie, la macro-écho. C'est 27 scènes nationales, en fait, à appréhender. Avec aussi la dimension culturelle. On n'a pas du tout les mêmes cultures politiques. Nous, par exemple, les Français, on a grandi dans le fait majoritaire où on a la gauche, la droite, et puis ça se renverse en général tous les 5 ans. Et de l'autre, en fait, on a des espaces politiques où le compromis, le consensus, en fait, sont de mise, avec parfois des formes d'instabilité, évidemment. On pense à l'Italie, entre autres. Et ça dit quelque chose, en fait, de comment on crée ça. Et je trouve ça passionnant, à la fois sur la dimension philosophique, comment on fait en termes d'intelligence collective pour créer cet espace commun. Et il en a fallu, en fait, du courage au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour se dire avec les Allemands, on s'assoit autour d'une même table et on va commencer à commercer ensemble parce qu'en fait, il faut qu'on aille vers la paix. Ce serait bien qu'on ait le même niveau de conscience politique et des hommes et des femmes d'État qui soient aujourd'hui en capacité de poser ça. Or, on n'est pas du tout là-dedans. On est même dans un repli. J'ai relu... Pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir lu, et écoutez, vous allez le découvrir et c'est un livre génial. C'est Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Et voilà. Et en fait, en miroir, on est dans l'après, enfin, on est dans l'entre-deux-guerres il y a un siècle et vous allez voir à quel point l'histoire bégaye.
C'est clair.
Et c'est là.
Une grande résonance contemporaine. Ouais,
exactement, exactement. Donc l'Europe, en fait, j'y suis venue par accident, mais j'ai fini par adorer cet espace parce que ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de nous, ça dit aussi la difficulté à démocratiser un espace politique complexe. Ouais. Et ça dit la nécessité, en fait, pour moi, à ma place de journaliste, de faire... Moi qui suis, du coup, un produit de l'éducation populaire et qui continue d'en faire, la nécessité de faire de la pédagogie, d'accompagner et de rendre palpable, en fait, nos institutions. Parce qu'en fait, c'est une part de nous. Donc en France, quand on dit c'est la faute à l'Europe, c'est pas nous, c'est la faute à l'Europe, et on le voit bien sur les agriculteurs, en fait, non. On l'a voté, tout ça.
Ouais, c'est voilà. Clair. Ouais, c'est... L'Europe, c'est pas juste quelqu'un qui décide comme ça, qui se lève de bon pied, bon oeil.
C'est nos ministres, c'est notre Exactement. Président de la République, c'est nous, en fait.
C'est bien commode, hein, c'est ouais. Un bon bouc émissaire.
Oui,
sur
mais ça,
de
c'est
choses.
Très français. Mmh. Et le problème, c'est qu'en plus, on a, et ça, toutes les études, tous les sondages le montrent, on a un vrai sujet. On n'en parle pas du tout. On est les plus mauvais en Europe sur la couverture de ces questions, les Français. On a une trentaine de journalistes qui suivent ces questions à Bruxelles, ce qui est que dalle. Et par ailleurs, même les Anglais, en fait, même les Japonais, même les Chinois ont plus de correspondants. Donc cette distance qu'on a créée avec cette institution...
Comment tu l'expliques, toi, qui a bossé quand même sur ces questions-là? Il n'y a peut-être pas d'explication particulière, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de distance, d'après toi?
Parce que ce n'est pas notre culture politique. Le fonctionnement européen est un fonctionnement de compromis. C'est-à-dire que, par exemple, un texte, il doit être adopté dans la même mouture entre la Commission européenne, qui est l'équivalent du gouvernement européen, les États, qui sont en fait un peu comme une forme, si je dois schématiser, une présidence de la République. Enfin, voilà, ce sont les États qui sont représentés, donc les 27, et le Parlement européen, qui est l'émanation directe du vote. Ils doivent décider du même texte. Ça veut dire... passer par du compromis. Alors, certains vous diraient c'est du consensus mou. Oui, peut-être. Mais en fait, à un moment, ça nous a quand même permis d'avancer. On a eu la PAC. On a quand même, pendant le Covid, la Charte des droits fondamentaux. Pendant le Covid, en fait, on a vu à quel point ça avait été important. Y compris, on a levé des fonds collectivement pour pouvoir gérer cette dette-là.
Ce qui était historique, ouais.
Voilà. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on a du mal avec cette idée de compromis de consensus, parce que objectivement, dans les écoles, quelles qu'elles soient, université ou école de journalisme, l'Europe, on n'en parle pas. Ouais. Parce qu'on trouve ça trop loin, trop compliqué, et parce que objectivement, il y a une partie aussi des confrères qui trouvent ça chiant. Donc on n'en parle pas. Et je pense que... Moi, ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur ces questions. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on n'en parle pas assez. Ça fait 15 ans que tous les ans, on a des études qui démontrent que les gens veulent en savoir plus et demandent une forme de pédagogie. Parce que c'est vrai que c'est complexe, mais le PLFSS, c'est aussi complexe. La loi de programmation de la sécurité sociale, il n'y a pas plus complexe. Bizarrement, on est capable d'aller chercher le moindre petit amendement qui va avoir des conséquences concrètes, en fait, sur la vie des Français. Pourquoi on n'est pas capable de le faire au niveau européen? Et en fait, il y a des journalistes qui sont capables de le faire. C'est juste que, globalement, comme en audience, on se dit ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, on sait pas le faire, parce qu'on le fait de manière chiante. Mais il y a des choses à faire. Et moi, je me souviens très bien de l'époque de la crise grecque ou de la crise des dettes souveraines ou de la crise de l'accueil des réfugiés en 2015. Là, comme on avait quelque chose d'extrêmement clair, de politiquement extrêmement facile à décrire, les gens se sont pris de passion, y compris en 2005. Moi, je me souviens très bien du traité constitutionnel européen. Les débats étaient enlevés. Enfin, les gens avaient envie de comprendre. Il faut arrêter de les prendre pour des benêts.
Il y a eu un référendum, donc c'était
bien
fondamental.
Sûr. Donc il y a une vraie question démocratique et la place des médias dans cette question démocratique sur le traitement des affaires européennes, il est central. Et là-dessus, en France, on n'est vraiment pas à la hauteur.
Ouais, c'est clair. Mais en plus, là, on est dans une période, donc on va le rappeler, hein, les élections européennes auront lieu en juin.
Le 9 juin, tous aux urnes.
Voilà, précisément. Et force est de constater que pour le moment, dans les sondages, sont donnés pour, parti principal qui pourrait obtenir le plus gros nombre
30%.
De sièges, 30%, le parti de Marine Le Pen avec Jordan Bardella qui est tête de liste. C'est quand même assez hallucinant de voir comment, tu le sauras nous le dire, comment le Rassemblement National et Feu, le Front National, s'est positionné d'une part en eurosceptique total en disant qu'il faut faire péter l'Europe, il faut presque sortir de l'Europe avec cette idée de Frexit, etc., etc. Et aujourd'hui...
Qu'ils ont abandonné
absolument. Et aujourd'hui, se positionne en espèce de réformiste de l'intérieur en disant qu'il faut qu'on investisse les institutions pour les changer.
C'est ce qui est intéressant, c'est que le Brexit, il est passé par là. Le Brexit est passé par là, ça a été une déflagration. Moi, j'ai un souvenir, j'étais à l'ambassade britannique, on se quitte à 2h du matin, hyper confiant. Et à 6h, c'est le sol qui s'ouvre sous tes pieds. C'est pas mes pieds, c'est-à-dire que, y compris, personne ne s'y attendait. Voilà, personne... Tout le monde pensait que ça passerait. C'est un peu comme... C'est marrant parce que la même année, il y a eu Trump et il s'est passé la même chose.
Il y a eu Bolsonaro quelques temps après, avant aussi. Ouais.
Et en fait, ces coups de semonce et ce qui révèle la crise démocratique dans laquelle on est, personne n'a voulu les voir. Et c'est ça qui, je pense... a conduit aussi une partie des eurosceptiques et des anti-européens, des europhobes patents, je pense notamment au Front National devenu Rassemblement National, à se dire compliqué en fait. On voit bien que le Brexit a changé quelque chose. On ne dit plus Frexit, on ne dit plus qu'on veut sortir de l'Europe. On dit qu'on va sortir de certains traités. On dit qu'on va sortir de la hiérarchie des normes qui veut que la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice, en fait, ce qui décider cette jurisprudence, elle s'impose à nous. Que les traités européens, en fait, sont au-delà même de notre constitution. Donc, en fait, c'est une forme de... C'est pas un Frexit, mais c'est une forme d'opt-out. Donc, c'est une forme d'Europe à la carte qu'était, en fait, déjà la position des Britanniques. Donc, en fait, le fait d'avoir des opt-out comme ça, en fait, c'est une Europe à la carte, bah, du coup, c'est déjà une forme de petite lèpre qui fait que l'Europe s'affaiblit. Après... Moi, je ne suis pas eurobéate, pas du tout. L'Europe, il y a un vrai problème de transparence, il y a un vrai problème démocratique, il y a un vrai problème de représentativité. Et effectivement, à l'heure où on est 27 et on nous parle d'un éventuel élargissement à l'Est, à l'Ukraine, etc., alors qu'on n'a jamais réellement approfondi depuis les derniers pays entrés et qu'on voit bien à quel point c'est une impasse institutionnelle, parce que tout ceci éloigne et parce que, en fait, c'est un monstre, parce qu'on pense marché unique, c'est une Europe hémiplégique. On pense marché, on pense pas assez droits sociaux. Et là, on voit bien, en fait, que les Européens sont pas dupes et qu'ils veulent pas de cette Europe-là. Cette Europe où, c'était la figure du plombier polonais qui nous a occupé très longtemps. C'est l'Europe du dumping social, c'est l'Europe des délocalisations. Et en fait, c'est pas de ça dont veulent les gens. Et là-dessus... Et voilà, je ne suis pas là pour... Je ne vais pas faire, mais Emmanuel Macron avait compris ça, cette Europe qui protège. Sauf que lui-même n'a pas été capable, en fait, de créer les conditions d'une coalition, parce qu'il a là aussi pensé que l'Europe, c'était la France en grand, et qu'il allait pouvoir faire plier les autres tout seul. Donc, politiquement, il s'est mis tout seul dans une impasse, dans un corner. Il n'a pas été capable d'aller chercher et d'aller rallier, en fait, des alliés pour faire en sorte de donner une autre trajectoire à l'Europe. Donc là, on voit bien que le Covid a aussi permis ça, la nécessité de protéger. Donc, et cette idée aussi d'Europe géopolitique qu'on entend de plus en plus, on n'y est pas. Mais tout ceci est un lent et long processus, trop long, dans lequel, en fait, Bah, les populistes et les eurosceptiques et les xénophobes, en fait, s'engouffrent. Et on l'a vu en Europe centrale, on le voit avec Orban, on l'a vu avec le PiS, le Parti Droit et Justice en Pologne, mais qui vient d'être sorti. On le voit en Italie, avec Giorgia Meloni. On voit l'AFD en Allemagne, on voit Geert Wilders qui, aux Pays-Bas, est arrivé en tête en fait, des dernières législatives. Alors, on verra ce que ça donnera, parce que le gouvernement, à ce jour, n'est pas formé. On voit Vox en Espagne, le Portugal non plus, n'est pas, voit aussi son extrême droite. Et puis, la Grèce, n'en parlons pas, on parle de néo-nazis. Aube Dorée était quand même au Parlement. Donc, pour des pays comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, qui sont sortis des dictatures extrêmement, que ce soit Salazar, Franco ou la dictature en Grèce, on parle des années 70. C'est-à-dire que là, en fait, on voit bien que l'histoire bégaye. Et on voit bien que ce qui est en train de se passer sur la loi immigration que nous, on continue de traverser dans des débats putrides, disons-le clairement, c'est rien comparé au paquet asile-immigration qui va arriver au niveau européen dans quelques mois, qui va permettre en fait d'enfermer préalablement pendant l'étude de sa demande un demandeur d'asile pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, et des enfants aussi. Et donc, c'est ça que ça raconte. Donc, aujourd'hui, oui, il n'y a pas de Frexit, à proprement parler. Les nationalistes sont aussi très présents et le Parlement européen va certainement être bien plus teinté de noir dans quelques mois. Ils ont toujours investi le Parlement européen parce que c'est une proportionnelle totale et du coup, ils sont certains de pouvoir être élus. On a aussi Reconquête, Marion Maréchal-Le Pen en tête de liste, qui va certainement faire élire quelques députés. Là, on les annonce à 7%, à voir ce que va donner la campagne qui n'a pas véritablement encore démarré. Quoique, avec l'action des agriculteurs qui est pan-européenne pour le coup aussi, on voit bien qu'elle démarre. Pour autant... C'est ça qui est intéressant, c'est que cette alliance des nationalistes n'a jamais eu lieu. Ils se parlent.
Ils se parlent de plus en plus.
Ils se parlent de plus en plus, mais comme en fait ils sont nationalistes.
Quand t'es le premier ministre britannique qui débarque au meeting de Mélanie là, il y a quelques semaines, j'ai l'impression qu'il y a quand même...
Ils se sont toujours parlé et ils essayent de se parler. Mais comme ce sont des nationalistes, en fait, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Donc, pensée supranationale, y compris quand on est d'accord sur la xénophobie et sur l'immigration et sur l'Europe des murs, ça donne pas tout, parce que vous en avez certains qui vont être très très libéraux, notamment d'un point de vue économique, d'autres qui vont être très très protectionnistes, et donc créer des alliances supranationales, c'est pas si simple. Donc ils essayent, mais pour l'instant ils y sont pas encore arrivés. Ouais, donc,
on espère qu'ils n'y arriveront jamais. Enfin, moi en tout cas, je préférerais ce cas de figure. C'est intéressant ce que tu dis et ça me questionne sur la société civile européenne. Existe-t-elle ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une société civile au niveau européen ? Parce que tu parlais du fait qu'il y a des cultures politiques qui sont différentes, donc j'imagine qu'il y a aussi des cultures militantes et associatives qui sont différentes. Est-ce qu'on peut imaginer l'émergence d'une alternative qui serait structurée autour des questions de droits humains, de la promotion aussi de l'antiracisme, de l'antivalidisme, etc., à travers justement cette Union européenne qui pourrait être un complément, penser les défauts de cette institution.
Franchement, j'y crois moyen, parce qu'il y a des sociétés civiles. Mais les sociétés civiles se parlent. Elles se parlent de plus en plus. Typiquement, faut voir que le mouvement associatif au sens large en France, il a des liens avec les autres espaces francophones. Que de plus en plus, ça se parle, y compris au sein de la société civile organisée. Les syndicats, les grosses ONG qui font du plaidoyer, elles se parlent toutes. Donc, il y a des connexions. Pour autant, c'est quoi une société civile ? C'est les citoyens, c'est toi et moi. Aujourd'hui, disons-le clairement, pour se sentir européen, il faut avoir passé la frontière, il faut avoir expérimenté l'Europe. C'est souvent les gens qui ont eu l'opportunité et le privilège de faire Erasmus qui ont pu s'expatrier. Personne ne se sent européen. Enfin, tu ne vas pas me faire aimer un drapeau, quoi. Enfin, tu vois,
c'est
bien gentil, l'hymne à la joie, mais ça ne fait pas rêver. Enfin, ce n'est pas ça, en fait.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
L'expérience d'une identité européenne, c'est pas ça. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas construit ça et quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, il n'y aura pas une société civile européenne. Il y a des sociétés civiles européennes qui se parlent, qui sont en capacité de plus en plus de faire commun. Je pense notamment quand Camille Etienne en fait va en Norvège ou fait des actions avec une Greta Thunberg, etc. Sur le mouvement climat, il y a quelque chose, une forme de... Il y a un mouvement transcontinental.
Tout à fait, ouais. Qui dépasse même l'Europe.
Donc là-dessus, il y a eu des possibilités. Sur le mouvement antiraciste, c'est pareil. Ça se parle, ça constitue... voilà. Mais chaque histoire dans chaque pays est différente. Et surtout, quand on est en fait en Angleterre ou aux Pays-Bas, qui sont des pays où la communauté n'est pas un vilain mot, l'appréhension de l'action collective n'est pas la même. Donc là-dessus, ça reste quand même aussi des scènes très nationales. Il y a des espaces où ça converge. Typiquement les syndicats, les questions en fait. La Confédération européenne des syndicats, c'est énorme, c'est 180 organisations. On se disait que nous, on avait du mal avec 8 organisations sur la réforme des retraites. Bon, en fait, il y a une organisation pan-européenne des syndicats qui, globalement, est alignée sur la question des droits sociaux, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et là, on voit bien, mais il y a une prise de conscience depuis quelques années de la nécessité, en fait, de désiloter, de se parler et de faire ensemble.
Mais c'est même entre luttes.
Mais complètement.
Ouais,
mais clair. Ça, on le voit nationalement, mais on le voit d'un point de vue européen. On est dans les prémices, c'est en train de se faire. Donc, ça va prendre du temps, mais l'urgence démocratique dans laquelle on est, en fait, elle pousse aussi à agir. Et c'est en train de se passer. La seule chose, c'est qu'après, il y a un truc tout bête, mais qui ne l'est pas, c'est la langue. Eh non, mais tout le monde n'est pas anglophone, tout le monde n'est pas capable de penser autrement que dans sa langue. Et ça, en fait, c'est pas si simple. Donc, c'est aussi un obstacle. Et quand je te dis, qui sont ces 1%? C'est des gens en fait qui sont capables de switcher. Est-ce que c'est ces citoyens du monde qui se sentent aussi bien à Lisbonne que à Munich ou à Paris? En fait, c'est ça le sujet. C'est comment on emmène tout le monde. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dimension hyper excluante en fait. Et c'est comme tout. Si t'embarques pas tout le monde, ça veut dire que les gaps sont tellement énormes qu'à la fin, ça pète. Et c'est ça le sujet. C'est qu'à la fin, ça pète.
Qu'est-ce que tu penses de l'Europe féministe? Là, on voit, moi je le vois par exemple, il se trouve que je suis d'origine italienne, donc je passe pas mal de temps en Italie, et c'est marrant parce que tu parlais de cette identité, de construction de l'identité européenne. Tu vois, moi je me sens franco-italienne à la rigueur, mais pas, enfin, européenne, parce que oui, je crois au projet. Je me dis qu'effectivement, ça peut potentiellement être un objet supranational, transnational de protection de nos droits, et dans cette perspective-là, ça me séduit et j'ai envie d'y aller. C'est pas forcément toujours le cas, malheureusement, mais effectivement, je pense que c'est
aussi le libre-échange.
C'est aussi et surtout beaucoup le libre-échange.
C'est aussi beaucoup de bovins qui vont arriver de Nouvelle-Zélande dans quelques mois.
C'est clair, voilà.
C'est le deal avec le Mercosur qui va foutre en l'air les droits et là, typiquement,
Exactement.
Les agriculteurs, c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné.
Non, c'est pas gagné. Donc effectivement, le sentiment d'appartenance européenne, en quelque sorte, il est effectivement difficile à construire, il est difficile à appréhender. Mais au-delà de ça, moi, je me rends compte, du coup, en Italie, tu vois, par exemple, le mouvement féministe qui irradie beaucoup depuis l'Amérique latine, Ni Una Menos, à partir de l'Espagne, a vachement de répercussions en Italie. Tu as des collectifs Ni Una Menos qui se sont créés aussi en Italie, etc., etc. J'ai l'impression que l'Italie et l'Espagne se parlent, notamment sur les questions féministes. En France, j'ai encore l'impression que les féministes, peut-être, ont quelques relations un peu avec les Belges.
Elles regardent vachement l'Espagne.
L'Espagne aussi, c'est vrai, on regarde de près. Mais est-ce que tu penses que peut-être une des luttes, notamment le féminisme, pourrait émerger sur quelque chose d'européen?
Ça, ce serait vraiment la meilleure des choses, parce que s'il y a un vrai levier en termes de droit, c'est l'espace européen pour les femmes. Vraiment. Et
qui est fondamentalement menacée, en plus.
Qui est fondamentalement menacée. Alors, on parle en ce moment d'une constitutionnalisation de l'IVG en France, mais il y a aussi un débat au niveau européen pour mettre l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux.
Macron l'avait promis lorsque la France présidait l'Union européenne. Ouais, hélas, mais, il ne s'est rien passé.
Ben, oui. Ouais. Alors après, ça ne s'est pas fait. C'est pas évident, parce que ouais, c'est à l'unanimité. Et autant vous dire que Hongrois, Polonais, Chypre,
Italien.
Voilà, donc c'est ça en fait qui est difficile. C'est pas parce qu'on le décrète, c'est parce que ici en France on a une logique de président jupitérien qui appuie sur le bouton et ça ruisselle tout seul. En fait, ça se passe pas comme ça du tout. Donc tout ça c'est long, c'est des processus qui impliquent de monter des alliances, des coalitions, c'est des bagarres. Et le Parlement européen là-dessus est un véritable allié sur la question des droits et notamment des droits des femmes. Moi, pour bien connaître beaucoup de députés avec qui je traite depuis des années et qui sont parfois à leur troisième mandat, il y a des vrais féministes, il y a des nanas qui luttent. Et c'est le bon espace. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative. Il ne peut pas faire de proposition de loi européenne.
Et qu'il est présidé quand même par une anti-IVG.
Ouais, qui a donné des gages quand elle est arrivée en mode « Non, promis. » Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça dit quelque chose. Mais ça reste le bon espace et ça reste le bon niveau. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, quand l'interdiction quasi en fait, de l'avortement s'est mise en place en Pologne, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les mouvements féministes en fait, voisins qui ont permis en fait, à des femmes d'avorter. Ça s'est fait par des courriers, par des missives. On les a exfiltrés parce que Schengen permet en fait, de passer des frontières. Voilà, et c'est ça aussi que ça permet. Voilà, ça permet ça. Donc, oui, c'est le bon niveau. Oui, il faut se parler plus. Faut faire fi aussi de différences. Mais il y a des histoires particulières qui ne sont pas que des histoires nationales et qu'il faut savoir entendre. Typiquement, l'Europe centrale et orientale, ce n'est pas l'Europe de l'Ouest. L'Europe du Sud méditerranéenne, ce n'est pas l'Europe du Nord. Voilà.
Oui, c'est clair. Et restons dans une logique de territoire. On va se déplacer un peu grâce à tes différents travaux et centres d'intérêt. Tu t'intéresses beaucoup à l'Europe, tu t'intéresses beaucoup aux quartiers populaires, et notamment en Île-de-France et à Marseille. Tu passes la moitié de ton temps à Marseille à peu
ouais,
près ?
Oui, un bon tiers.
Oh, pas mal.
Ouais. Besoin de soleil.
Je comprends.
Besoin de chaleur, besoin de soleil, besoin d'accent chantant. Moi, je suis contre la glottophobie, voyez-vous. Vous irez chercher dans le dictionnaire la glottophobie.
C'est ça, voilà. Ça
mais
va
les
vous
accents,
occuper
c'est la
un
vie.
Peu. Ça va vous occuper un peu. Et donc, du coup, là, on va bientôt nous s'intéresser à Marseille. On va faire une newsletter un peu dédiée à ce territoire et s'intéresser notamment, tu vois, au mouvement féministe, etc., sur place. Et puis au mouvement politique, bien sûr, parce qu'il n'est pas inintéressant.
Non, il y a une NUPES qui a réussi à Marseille.
Le printemps marseillais.
Le printemps marseillais, c'est intéressant d'ailleurs.
Carrément.
C'est alors, je le vois un peu de loin, je suis pas aussi insérée dans les milieux marseillais que je ne le suis à Paris. Toutefois, ce que je vois, c'est que cette espèce d'urgence à réveiller Marseille, à faire en sorte de sortir de l'urgence sociale dans laquelle cette ville peut être. Hein. Faut se dire qu'il y a des quartiers de Marseille qui sont classés comme étant parmi les plus pauvres d'Europe. C'est pas juste, voilà. Marseille, c'est une ville populaire, c'est une ville chaleureuse, c'est une ville qui est parfois difficile. C'est une ville qui est pleine de contrastes. C'est une ville qui, comme dans certains coins de Méditerranée ailleurs, en fait, donne à voir des profondes inégalités. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on pensait tous... Moi, Marseille, ça fait 20 ans. Hein. J'ai découvert Marseille bien avant la hype, bien avant que Monsieur Jacquemus fasse des posts et que tout le monde... et que tous les Parisiens se disent « Ouais, putain, trop bien, Marseille !» Ok, j'y étais bien avant. À l'époque où on disait « C'est sale, ça pue, il y a des rats. » Oui, mais c'est ça qui fait son charme. Et c'est pas vrai, en fait. Parce que cette ville, elle est sublime, parce qu'il y a des gens extraordinaires qui font bouger. Et je pense que, pour le coup... Moi, je l'ai toujours vue comme un labo. Je la vois comme un labo...
Un labo militant,
associatif
et politique.
Et politique, parce que pour le coup, le sentiment peut-être d'urgence à relever cette ville. Là, on parle l'année dernière, en fait, de 48 morts par balle, quoi. On a des gamins de 17 ans qui sont tueurs à gages, qui se vendent, en fait, pour des contrats, pour aller désinguer des gens. On en fout d'autres, en fait, dans des bagnoles et on fait des barbecues. Enfin, on parle d'actes de torture. Enfin, c'est-à-dire que pour le coup, s'il y a un territoire oublié de la République, c'est cette ville, quoi. C'est une ville où vous ouvrez le journal et puis vous vous rendez compte, en fait, que la RTM, la Régie des Transports Marseillais, a décidé de mettre en place un bus caché qui va dans les beaux quartiers pour descendre, en fait, les gamins à la plage et que ce bus, en fait, n'existe sur aucun plan. Enfin, qui fait ça? Qui fait ça? C'est des balles qui volent au-dessus des écoles. C'est l'état des quartiers de cette ville, des quartiers populaires de certaines cités. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça.
T'as réalisé documentaires, notamment,
alors,
à Marseille?
À Marseille, ouais, mais c'était plutôt sur la création du parc des Calanques et puis sur d'autres trucs, mais des reportages beaucoup. Mais du coup, moi, je connais plutôt bien le milieu associatif. Qui justement œuvre hein, sur les questions d'antiracisme, sur les questions de quartier, avec l'asso que je préside, le collectif Oeil, on fait de l'éducation aux médias. On est beaucoup intervenu en fait dans certains quartiers, notamment je pense à la Cravache, un quartier qui s'est vu littéralement emmuré. Ils ont monté un mur de 4 mètres et les habitants de ce quartier en fait doivent faire 1,5 km pour arriver à l'école. À la boulangerie, à la laverie, à la pharmacie. Voilà. Voilà. Marseille, c'est ça. C'est, vous avez une copropriété qui décide, en fait, d'ériger un mur et de couper, en fait, des habitants précaires, populaires, de l'espace public. Voilà. C'est ça, en fait, le niveau d'inégalité. C'est une des villes où vous avez, de l'espace public qui tente à devenir privé, et c'est de plus en plus le cas. On crée des impasses, on crée des voies privées, et c'est pas un sujet. Donc, relever cette ville, faire en sorte de remettre du droit commun, c'est pas rien. Donc le président de la République est arrivé avec son plan Marseille en grand, ok, 5 milliards. Bon, on est encore loin du compte. Hein. On est encore loin du compte. C'est aujourd'hui une ville où Martine Vassal, la présidente de la métropole, a décidé d'arrêter pendant 2 ans le métro à 21h30, les 2 lignes de la ville, pendant 2 ans pour faire des tests. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a un manque de transport, il y a un manque de services publics, c'est tout ça. Il faut se souvenir de la rue d'Aubagne et des morts de la rue d'Aubagne. Dans quel pays, comment un pays comme la France, dans la deuxième ville de France, comment vous pouvez avoir des bâtiments qui s'écroulent sur eux-mêmes? C'est quand même hallucinant. Et donc peut-être que c'est ça qui conduit aujourd'hui à avoir un printemps marseillais, qui est une coalition très large, type NUPES, mais avec la société civile, à tenir, bon an, mal an, peut-être parce que l'urgence de cette ville, l'urgence de l'action publique, conduit à se dire qu'en fait, on n'a plus de temps pour les chicailleries, peut-être.
Ouais, moi, ce que j'ai remarqué aussi dans cette ville, c'est qu'il y a une organisation très forte de ce qu'on appelle community organizing aux États-Unis et ailleurs, enfin en anglais.
Et en France aussi.
Et en France aussi. Ouais. L'organisation de communauté, je traduirais comme ça.
Ouais, je dirais l'organisation de leadership communautaire.
Leadership communautaire.
Ouais, de créer des leaders.
Parce qu'on voit quand même qu'il y a une activité effectivement associative très dense, très riche, très dynamique. Il y a une
solidarité
aussi.
Et dans une forme d'auto-organisation qui est dingue.
Exactement.
Ils n'attendent plus rien de l'État.
C'est ça qui est effrayant.
Ouais. C'est que moi, dans certains quartiers, tu arrives et en fait, tu as des gens qui disent « Mais non, mais nous, on n'a plus rien. » Et ça fait des années qu'on n'a plus rien. Quand ils n'attendent plus rien du bailleur et ils vont eux-mêmes acheter en fait, de la peinture à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt et ils repeignent eux-mêmes les parties communes. Enfin... On est dans un tel niveau d'auto-organisation, de tel abandon de l'État et de l'action publique que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la République a fait sécession dans certains quartiers. À Marseille particulièrement, ailleurs aussi. Hein. Mais là, un tel niveau d'auto-organisation, moi, de ma longue carrière militante et journalistique, j'ai jamais vu ça. Et cette ville, il y a ça. Et il y a ça partout. Mais il y a, du coup, une solidarité extraordinaire.
Extraordinaire. Et ça sent, ça transpire de partout. Enfin, moi, je connais pas très très bien cette ville, mais les quelques fois où j'ai pu y aller, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très sensible à ça. Tu le sens vraiment. Et peut-être qu'aussi ce printemps marseillais qui justement a été, comme tu le disais, constitué en collaboration, en coopération avec la société civile. C'est aussi cette solidarité qui est là. Moi, je me souviens d'avoir discuté, par exemple, avec des élus à la mairie de Marseille, à la ville de Marseille, qui ont vécu la rue d'Aubagne. C'était leurs voisins, voisines, des gens qui aujourd'hui en parlent avec la gorge serrée et qui sont vraiment là pour essayer de changer les choses. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il et elle risquent d'être un peu déçus de la réalité de la politique institutionnelle?
Évidemment. Il y a toujours de la déception parce qu'en fait, les logiques de parti, notamment les logiques partisanes, font que les partis sont plus des espaces comme ils ont pu l'être de socialisation politique, de création d'idées, de doctrine. Ils ont essentiellement délégué ça aux think tanks où globalement, ça c'est mon point de vue personnel, mais la production d'idées est assez faible.
Et pareil, parfois très orientée.
Et parfois, évidemment.
Pas forcément dans le bon sens, d'ailleurs.
Après, la déception, oui. Et donc, les logiques de parti veulent que ce sont des structures, en fait, qui sont des véhicules pour élection. C'est quelle motion vous avez signée, quel est votre courant, et du coup, on va voir sur quelle place vous êtes. Voilà, typiquement, il n'y a qu'à lire les papiers autour de la constitution des listes au PS. Enfin, c'est lunaire, lunaire. Donc, on n'est plus du tout dans des logiques, en fait, d'irrigation par la société civile. Et en fait, surtout, à l'heure où tous ces espaces intermédiaires, tous ces corps intermédiaires que sont les partis, les syndicats peut-être un peu moins depuis la réforme des retraites, mais voilà, les grosses structures sont littéralement disqualifiées par des trahisons successives. Du coup, en fait, le seul espace où l'action, elle est réelle, elle est concrète, ça redevient l'associatif. Et j'aime bien citer le travail du sociologue Roger Su, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La contre-société ». Et dans cet ouvrage, Roger Su, il indique que voilà, le mouvement associatif aujourd'hui, en fait, c'est presque un espace parallèle par rapport à l'espace politique et notamment médiatique. Ces deux espaces, ces deux parallèles qui finissent à un moment par ne presque plus se croiser. Donc vous avez des gens qui font, qui sont hyper engagés, multi-engagés souvent, qui, dans une innovation folle, inventent le monde de demain, inventent vraiment le monde d'après. Ils sont déjà dans le futur, c'est le futur. Moi, j'étais effarée pendant le Covid. J'avais souvent affaire, parce que je suis dans plein de boucles de milieux militants associatifs, de voir ce qui a été produit, de voir l'innovation, de voir la créativité des gens. Le fait de dire, OK, au fait, le problème, c'est ça, comment on fait pour le régler? Et en fait, là, juste, il n'y a même pas de sujet, il n'y a pas de dynamique partisane, il n'y a pas de... On est concret. Et moi, je le vois avec des gamins de 20 ans aujourd'hui, qui ont envie de s'engager, qui le font, qui cherchent même pas... Pareil, il n'y a plus de logique, on va demander un peu de thunes à l'État, on va demander... Éventuellement, tu demandes 2000 euros à la mairie parce que tu as besoin d'acheter, en fait, un truc pour transporter. Mais moi, j'ai vu des gamins organiser des maraudes en RER pendant le Covid. Organisées via des fils WhatsApp. Et ça venait de tout, le 78, le 92, le 93. C'était blindé tout le temps. Ces mômes, ils ne demandaient rien. Ils venaient, ils faisaient des quêtes, ils se démerdaient pour récupérer des thunes, pour récupérer des invendus. Ils faisaient à bouffer, ils faisaient des maraudes en RER et en métro. Voilà. La société de demain, c'est celle-là. Et le problème, c'est que vous avez des partis, vous avez des structures partisanes qui n'ont mais aucune idée de ce qui se passe dans le réel. Voilà. Donc le niveau de hors-sol, le niveau de dissonance presque, en fait, entre ces deux espaces, c'est juste lunaire. Donc, moi, je veux bien qu'on se dise on est dans une impasse, on est dans la merde, etc. Mais moi, je suis profondément optimiste. Moi, je vois tout ce que les gens font. Et dans les clubs sportifs, dans les assos, dans les... Enfin, c'est en bas des gens, dans les comités des fêtes en ruralité. Alors, j'aime pas ce mot, en ruralité, mais enfin, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Le problème, c'est qu'il faut peut-être qu'on se décentre, nous aussi, qu'on descende en bas de chez nous, qu'on aille au village d'à côté, qu'on voit ce qui se passe. Parce qu'en vrai, il y a un dynamisme dingue et il faut qu'on arrête de regarder la réalité par le prisme des médias, par cette loupe déformante, je pense, qu'est le regard des politiques et de beaucoup de journalistes qui n'ont pas pour habitude de passer le périph. Donc voilà, c'est juste ça, je pense. Et là-dedans, alors oui, pour revenir à ta question, peut-être que les gens issus de la société civile au printemps marseillais vont être déçus. Mais je pense que ces espaces d'irrigation et d'acculturation sont absolument nécessaires. Voilà. Après, c'est aussi à nous collectivement de faire un vrai travail sur, bah non en fait, vous les politiques, ça n'existe pas. Vous, là, tous les politiques, là, tous pourris. J'entends vachement ça. Et je me souviens en fait d'un maire qui, d'un canal historique de l'engagement, donc que je ne vais pas nommer, qui à 65 ans décide de s'engager et de devenir maire. Et qui me dit, je crois que tu ne peux pas te rendre compte, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais effacé, en fait, 45 ans de militantisme. 45 ans d'ancrage, de terrain, de légitimité construite au gré des combats, des sittings, des manifestations, des occupations, etc. Là, j'ai passé le Rubicon et du coup, j'ai des gens qui me disent « Ah ouais, mais non, mais vous, les politiques, tous pareils, tous pourris. » Et ça, c'est pas vrai, en fait. Moi, je bosse aussi pas mal avec des collectivités. Je vois des maires, je vois des élus qui se défoncent, qui laissent leur santé. Donc, en fait, faut vraiment pas être dans une... Faut lutter vraiment contre le défaitisme et faut vraiment replacer de la nuance. Voilà. La politique, c'est compliqué. À quel que soit le niveau auquel on se place, quand on est maire d'une petite commune, quand on est dans une interco, c'est complexe. Les législations sont complexes. Ça gagne pas des masses, en vrai. Alors oui, il y en a certains qui vont chercher à maximiser leurs profits, etc. Mais en vrai, c'est vraiment pas une réalité. Enfin, c'est vraiment pas une majorité. Donc, voilà. Au même titre que arrêtons d'essentialiser. Il y a des politiques pas cool. Il y en a qui font un travail exemplaire. Il y a des gens qui sont encore mus par l'intérêt général. Beaucoup, en fait. Bien plus qu'on ne croit. Sauf qu'au niveau national, bah, voilà. Les logiques de parti qui doivent profondément se transformer. Vraiment. Et c'est une urgence démocratique que de le faire. Et bah, du coup, en fait, elles font émerger quoi? Des gens qui sont juste, bon à faire de la politique aérie, à être dans les bons espaces, les bonnes motions, etc. Et pas les meilleurs, ceux qui travaillent justement à cet intérêt général. Voilà, donc on veut plus d'hommes et de femmes d'État. Et peut-être qu'une partie d'eux vient de la société civile. Je rappelle juste qu'avant la professionnalisation du politique tel qu'on peut le voir aujourd'hui, on avait des ouvriers passés par le... Enfin, des ouvriers, pas beaucoup, on n'en a jamais beaucoup eu, mais des gens passés par le syndicalisme.
On en avait plus qu'aujourd'hui.
Bien plus qu'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est que c'est possible.
Bien sûr.
Donc là, à l'heure, par exemple, où Rachida Dati nous dit « on veut de la culture pour tous et de l'éducation populaire », ouais, chiche. C'est juste que là, il va falloir réapprendre à faire nos vieilles soupes dans nos anciennes marmites. Parce que ça, on a su le faire. Voilà. C'est juste qu'on a été trop loin dans cette professionnalisation. Dans ce que Jean-Louis Borloo, j'aime bien cette expression, appelle la République des petits hommes gris. Tous ces gens de la Commission des Finances, de la Cour des Comptes, voilà. C'est bien d'en avoir 10-15%, mais en fait, il faut de la diversité, parce que c'est débile ce que je vais dire. Mais si on mangeait des bananes tous les jours, au bout d'un moment, on serait un peu dégoûté des bananes. Bah là, je pense que c'est pareil. Désolée pour cette image.
Oui, on peut prendre n'importe quel autre fruit. Exactement. Ou légume.
Vive les bananes.
Vive les bananes, oui, c'est vrai que c'est très bon pour la santé. Et vous pouvez manger des bananes tous les jours.
Ouais.
C'est très bon pour la santé.
C'est
je
clair.
Le fais tous les matins.
Voilà, c'est l'équivalent protéiné d'un steak, sachez-le.
Et je préfère les bananes à Gérald Darmanin, typiquement. Perso.
Tu le connais pas bien, je suis sûre que si tu faisais un peu connaissance.
Oui. Non, c'est vrai que je fais pas d'effort. Je fais vraiment pas d'effort, c'est vrai. Merci Nora, c'était bien en plus cette petite fin sur une petite métaphore alimentaire.
Mon Dieu, quelle horreur. Tu veux vraiment qu'on finisse là-dessus? C'est pas possible.
Non, je ne veux pas qu'on termine là-dessus. J'aimerais qu'on termine sur tes projets.
Ah. Ah là là. Alors là aussi, il va falloir un moment. J'en ai beaucoup, j'en ai tout
Mais
le temps. J'en ai eu un ce matin à 4h du matin dans mon lit, que j'ai noté. Ouais. Non, je fais partie de ces gens qui ont des idées sous la douche, aux toilettes, dans les transports, pendant une insomnie. Et là, j'ai envie de faire, voilà. Donc, il n'y a pas assez de jours ni d'heures dans mes journées. J'ai un peu de mal à dire non. Donc, parfois, en fait, je m'en veux beaucoup. Et à la fin, je suis très, très fatiguée. Je me mets à pleurer en disant, non, mais vraiment, il faut que j'arrête, je suis fatiguée. Comme beaucoup de gens, je crois, voilà. Plein de projets. Quelques projets de doc. Je suis en train d'écrire un projet de livre.
Nice.
Ouais.
T'as le droit de spoiler un peu.
J'ai le droit de spoiler. Ouais, bah c'est une histoire de banlieue.
Surprenant.
On va revenir aux sources. Plein.
Okay,
toujours
bien.
Plein. Envie d'aller plus sur des voilà. J'ai des envies de créer des festivals, j'ai des envies de nouvelles associations, j'ai des envies de plein de trucs. Le problème, c'est que j'ai trop d'envies par rapport au nombre d'heures qu'il y a dans ma journée. Et des fois, du coup, je me dis, j'aimerais bien rien foutre. J'aimerais bien rester chez moi, pas assez souvent. C'est marrant parce que j'ai un tu sais, t'as Netflix, t'as machin, et je crois qu'en fait, je n'ai pas regardé un film depuis des mois. J'aimerais bien squatter chez moi, tu vois, rien faire et binge-watcher une série genre The Crown. Je ne l'ai toujours pas vue la dernière saison, tu vois. Mais bon, non, mais ce n'est pas grave parce que par ailleurs, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup au théâtre. Et ça, je suis quand même assez fan. Et ça, ça fait...
Une pièce à nous recommander en particulier Un truc que tu aurais vu récemment qui t'a plu.
Alors, Milo Rao, Antigone in the Amazon. C'était absolument extraordinaire, qui a été présenté au Festival d'Avignon, auquel j'étais pas, mais que j'ai eu la chance de voir à la Villette. Je pleure pas souvent au théâtre. Mais là, en fait, Milo Rao, qui est un dramaturge et metteur en scène suisse, a mis en scène Antigone, en fait, qui veut enterrer son frère et malheureusement, le roi lui interdit. Et donc, ce rapport à la terre, cette terre dans laquelle il ne peut pas être enterré, il fait un lien direct avec les paysans sans terre du Brésil. Ouais. Et il va monter Antigone avec des paysans sans terre au Brésil. Et au plateau, il fait dialoguer, en fait, ces paysans qu'on a dans un dispositif où, en fait, ils sont avec nous puisqu'ils ont été filmés. Et il rejoue tout, en fait, voilà. Et c'est extraordinaire. C'est d'une puissance folle. Et évidemment, et parce que ça joue à Malakoff en mars ou avril prochain, Rebecca Chaillot, Carte noire de mes désirs, qui a été très très mal reçue par certains téléspectateurs à Avignon, où elle interroge dans une performance extraordinaire, et c'est que des femmes noires au plateau. Voilà, toutes les représentations qu'on a, en fait, du corps noir, des femmes noires, dans un dispositif où, en fait, elle fait quelque chose de ségrégué dès le début. Si on est femme noire, on est dans un autre espace que le reste du public, donc c'est assez intéressant. Et c'est de belles émotions, et c'est très dérangeant, et c'est surtout, ça vous percute parce que ça vous décentre. Donc courez-y, façon de courir voir tout ce que fait Rebecca Chaillot. Et évidemment Mohamed El-Khatib, le seul, l'unique Mohamed El-Khatib qui a fait une expo qui s'appelle R12, qui a été proposée au MUCEM il n'y a encore pas longtemps, et qui va arriver sur Paris parce que tout le monde se l'arrache. Donc je ne sais pas si ce sera à Beaubourg, à la Porte Dorée, enfin voilà, mais il va arriver. Et Mohamed El-Khatib met en scène ses Renault 12 qui nous ont servi pour ceux qui, comme moi, viennent du Maghreb, à partir en vacances, et il interroge cette histoire collective.
Génial.
Et remet en scène ses Renault 12, ses Renault cathédrales, comme il les appelle. Et c'est tellement beau, c'est tellement sensible. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Donc là-dedans, tu vois, je suis là, genre, j'aimerais bien rester chez moi, mais en fait, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement des gens qui ont des choses magnifiques à raconter, qu'en fait, j'ai pas assez de temps pour pouvoir tout voir. Et voilà. Mais.
Super.
Donc sortez de chez vous. Et il se passe tellement de trucs dans les théâtres, dans les musées. Voilà. Il y a plein de rencontres. Et c'est top.
Merci beaucoup, Nora Hamadi.
Merci, Léa. Merci à toi de faire tout
bientôt.
Ce que tu fais. Continue.
Merci.
À Marseille, ailleurs, on soutient Popol parce qu'on a besoin de ça. Des espaces qui font se croiser. Voilà, toutes ces paroles, toutes ces voix militantes, féministes, antiracistes, etc. Voilà. Donc, merci pour tout ce que tu fais. And keep the faith et longue vie.
Merci beaucoup. Merci, Nora. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent, qui nous soutiendront, tout ça, tout ça.
Et soutenez.
Et soutenez, puisqu'effectivement, vous savez que c'est pas forcément toujours évident. À bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk. We'll be right back.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.